En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Luc Ferry, philosophe français, ancien ministre de l'Éducation nationale sous le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, prenait la parole au cours du colloque sur les OGM organisé à l'Académie des sciences en septembre 2008. Il s'est exprimé sur le principe de précaution, un regard critique sur notre société fondée depuis peu sur la déculpabilisation de la peur, épinglant tour à tour Nicolas Sarkozy et Jean-Louis Borloo, réfutant l'utilité de l'inscription dans la Constitution du principe de précaution et terminant sur la nécessité de mettre l'accent sur les sciences dans le domaine scolaire pour ne pas virer à l'obscurantisme. On écoute le philosophe.
Je voudrais commencer par un tout petit rappel historique. J'étais en Allemagne dans les années 70 et j'ai pu voir en effet apparaître en Allemagne pour la première fois cette notion de principe de précaution, plus exactement ce que nous avons, nous Français, traduit par principe de précaution. Ça s'appelait en allemand « Fürsorgeprinzip ». Et il s'agissait de tout autre chose que ce qu'on entend aujourd'hui par principe de précaution. Il s'agissait de prendre ces précautions au sens d'économiser la planète, de prendre en compte l'avenir, les générations futures, de ne pas user les richesses naturelles de manière inutile, de ne pas pécher par imprévoyance. Aujourd'hui, dans le contexte français, le terme, l'expression plus exactement, principe de précaution signifie tout à fait autre chose. Elle signifie quelque chose comme le risque zéro, l'idée que s'il y a un risque, alors il faut tout arrêter. Cette signification est apparue notamment après la fameuse crise de la vache folle, où on a décidé, comme vous le savez, d'exterminer les troupeaux massivement chaque fois qu'il y avait le moindre risque et où l'idée du risque zéro s'est introduite. S'il y a le moindre risque, alors, encore une fois, on arrête tout. Et c'est finalement cette signification que, dans l'opinion publique, le principe de précaution a fini par prendre. Et c'est ce glissement de sens qui m'intéresse et que je voudrais interroger. Glissement de sens qui, je le dis tout de suite, ne me paraît pas forcément intelligent ni sur le plan politique, ni sur le plan scientifique. Et au fond, je me suis demandé pourquoi ce glissement de sens ? Pourquoi passer d'une idée qui n'est pas absurde et qui est même légitime, économiser la planète, à l'idée de risque zéro et à l'idée qu'il faut surtout tout arrêter ? Idée qui manifestement est motivée par quelque chose qui est de l'ordre de la peur. Et je vous en demande pardon par avance, mais en même temps, c'est le lieu où jamais de le faire. J'ai envie d'essayer devant vous d'aller jusqu'aux causes vraiment profondes de cette idéologie du principe de précaution, je ne vois pas comment l'appeler autrement, et notamment en essayant de comprendre les peurs qui suscitent la notoriété, le succès, j'allais dire, médiatique de ce fameux principe de précaution, puisqu'il a encore une fois été inscrit, je le regrette beaucoup, mais c'est ainsi dans notre Constitution. Et je pense que la première explication, mais je vais aller du plus superficiel à ce qui me paraît être le plus profond, encore une fois, je vous livre ma conviction ou mes convictions, je ne prétends pas avoir raison, mais en tout cas, je suis heureux de pouvoir le faire. Première approche de ce qu'il y a derrière ce principe de précaution, c'est évidemment une société dans laquelle nous assistons à une véritable prolifération des peurs, depuis maintenant une quinzaine, une vingtaine d'années, pas tellement plus. Et puis quelque chose qui est plus profond, c'est la déculpabilisation de la peur. Prolifération des peurs, c'est une évidence. Nous avons peur de tout, du sexe, de l'alcool, du tabac, de la vitesse, de la côte de bœuf, des poulets, des délocalisations, de la Turquie, des OGM, de l'effet de serre, de mille choses encore. Pour l'année prochaine, je suis certain que les nanotechnologies seront à l'honneur. Je pourrais ajouter 10, 20, 30 autres concepts à la liste. Et chaque année, elle s'augmente. Mais la nouveauté n'est pas là, chers amis. La nouveauté, elle est dans le fait de la déculpabilisation de la peur. La prolifération des peurs est déjà en soi quelque chose d'assez frappant. Mais après tout, Astérix avait peur que le ciel ne lui tombât sur la tête, ce qui n'était pas plus intelligent que d'avoir peur des OGM. La véritable nouveauté, c'est la déculpabilisation de la peur. Je vais le dire très simplement, comme si nous étions en famille. Lorsque j'étais petit garçon, en gros, ce qu'on nous apprenait justement dans les familles, c'est que grandir, c'est vaincre les peurs. Un grand garçon, ça n'a pas peur du noir, pas peur de quitter ses parents. Ça doit être capable de se porter au secours d'une personne faible agressée dans un train ou dans un métro. C'est ça qu'on nous enseignait. Je ne dis pas qu'on était toujours au niveau, mais c'était l'idée Et c'était l'idée dans l'école comme dans la famille. Aujourd'hui, nous vivons une déculpabilisation de la peur. La peur n'est plus présentée comme une passion honteuse, infantile, qu'un adulte digne de ce nom doit dépasser. La peur, elle est présentée comme le premier pas vers la sagesse. Dans le grand livre qui a servi presque de Bible à l'écologie allemande, je pense au principe responsabilité de Hans Jonas, il y a un chapitre extrêmement intéressant et significatif qui s'appelle « Heuristique de la peur ». Heurisco, je découvre, la peur nous fait découvrir les dangers qui pèsent sur l'environnement ou sur la politique. Pacifisme, écologie, Liberrot als Tod, plutôt rouge que mort, on a là un slogan qui vaut dans les deux champs et qui est né directement de cette déculpabilisation de la peur. Non plus passion honteuse et infantile, mais principe de découverte, non seulement de la prudence, mais même de la sagesse. D'où le fait que cette peur est aujourd'hui déculpabilisée. Lorsque j'étais ministre de l'Éducation, ça m'a beaucoup frappé. J'ai reçu des dizaines de fois, peut-être même plus d'ailleurs, les partenaires sociaux, les syndicats. Et je ne porte pas de jugement de valeur ici, c'est juste un constat qui m'avait frappé. Jamais la conversation entre nous ne s'est entamée autrement que par ces mots. Monsieur le ministre, nous sommes très inquiets, comme si l'inquiétude était le premier pas de la sagesse. Et comme si c'était évidemment la passion qui devait nous réunir, comme si ça allait de soi. Lorsque j'étais ministre également, je me souviens d'avoir vu ces jeunes gens manifester pour leur retraite. Là encore, je ne porte pas de jugement de valeur. Mais enfin, pour quelqu'un qui, comme moi, avait connu la génération de 68, c'était inimaginable. De l'extrême droite à l'extrême gauche, on aurait pu manifester absolument pour tout et n'importe quoi, mais pas pour les retraites. Et les jeunes gens avaient peur de l'avenir, comme si être jeune aujourd'hui était plus inquiétant que d'être un jeune juif dans l'Allemagne des années 30 ou la génération de mon oncle qui partait pour faire la guerre d'Algérie, ou de mon grand-père qui partait à faire la guerre de 14, ou mon arrière-grand-père, celle de 70. Il y a là quelque chose qui est assez fascinant et qui mérite réflexion. Prolifération, déculpabilisation de la peur. Mais j'en suis encore aux symptômes, pas aux causes. Essayons d'aller un peu plus loin. Pourquoi cette prolifération? Pourquoi cette déculpabilisation de la peur? Je pense qu'il y a une seconde raison, mais qui n'est pas la dernière, ni la plus profonde, mais elle est déjà beaucoup plus profonde que celle que je viens d'indiquer, qui n'est pas une raison, qui est une pure description. Nous avons vécu un siècle de déconstruction qui ne ressemble à aucun autre, je pense au XXe siècle. Nous avons déconstruit, dans l'ordre de la culture, de l'intelligence, mais aussi de la morale et de la politique, toutes les valeurs traditionnelles, toutes les autorités traditionnelles. Je m'empresse de faire une parenthèse pour éviter un malentendu. Je ne suis pas en train de préparer le coup du bon vieux retour en arrière. Je ne porte pas de jugement de valeur, je décris. Nous avons déconstruit la tonalité en musique, nous avons déconstruit la figuration en peinture, nous avons déconstruit les règles traditionnelles du roman, à la Balzac, à la Stendhal, à la Flaubert, avec le nouveau roman, avec Joyce et après le nouveau roman à la française. Nous avons déconstruit les figures traditionnelles du surmoi, ce qu'on appelle la morale bourgeoise. Et au final, nous nous retrouvons en effet dans une situation de flottement qui, pour certains, est angoissante. Cette déconstruction, qui est caractéristique du XXe siècle, ça n'avait jamais existé avant, dans aucun siècle connu des historiens. Jamais ça n'a existé. Encore une fois, je ne porte pas un jugement de valeur. J'essaie de comprendre. C'est différent. Cette déconstruction, elle s'est faite généralement au nom de deux drapeaux, de deux emblèmes très puissants, la bohème et l'avant-garde. La bohème, je vous le rappelle, la première fois dans l'histoire, dans notre histoire, qu'un livre porte ce titre, c'est le livre d'Henri Murger en 1848, s'appelle « Les scènes de la vie de bohème », que plus personne ne lit, mais dont on a gardé vaguement le souvenir parce qu'il a servi de livret au fameux opéra de Puccini. Ce livre de Murger, petit Allemand, qui obtient la nationalité française et qui écrit en français, raconte la vie des jeunes gens qui vont se livrer à la déconstruction, c'est-à-dire à la révolte de l'individu, ce sont les 68 arts de l'époque, si je puis dire, à la révolte des individus contre les traditions, contre les autorités, notamment, évidemment, en matière d'art. Ces jeunes gens vont se donner des noms qui vont passer dans le langage courant, on en a la plupart du temps aujourd'hui oublié l'origine. Ils forment des petits groupes et qui, encore une fois, se donnent des noms volontairement amusants qui sont destinés, comme on dit déjà à l'époque, l'expression apparaît à ce moment-là, à choquer le bourgeois. Ils s'appellent les « je m'en foutistes », c'est de là que ça vient. Ils s'appellent les « fumistes », alors « je m'en foutistes » parce qu'ils se foutent de la réussite sociale, les « fumistes » parce qu'ils fument de l'opium dans des petites pipes en terre ou en écume. Ils s'appellent les « hydropathes » puisqu'ils sont fous, puisqu'ils ne cherchent pas l'argent et la réussite sociale. Ils s'appellent les « hirsutes », ils sont comme l'ami Borloo, ils ont toujours l'air de tomber du lit. Ils s'appellent les « incohérents » parce qu'ils inventent des objets, là aussi, faits pour choquer le bourgeois, le peigne pour chauve, la balançoire de mur. Tout cela est assez rigolo, est assez amusant. Derrière, il y a quelque chose d'évidemment très profond, encore une fois. C'est quelque chose qui se profile au 19e et qui va exploser au 20e. La révolte des individus contre les traditions. L'individualisme révolutionnaire, on peut l'appeler comme ça. Et bien évidemment, à la fin du parcours, cela inquiète. Mais pourquoi ce 20e siècle est-il voué à l'avant-gardisme et à la bohème, à la déconstruction des valeurs traditionnelles et à la table rase du passé, à la tabula rasa? Pourquoi ça apparaît à ce moment-là et qu'est-ce qu'il y a derrière? Et j'en viens au niveau le plus profond, et je crois que c'est là qu'on va trouver les véritables racines de la peur qui prolifère dans la société actuelle et qui va notamment se cristalliser sur ce principe de précaution et à bien des égards contre la recherche scientifique. Aujourd'hui, c'est très frappant, beaucoup de gens pensent que les risques majeurs viennent non pas de la nature, mais de la recherche scientifique. Il faut comprendre ça. Et c'est lié à cette chose que je vais essayer de vous décrire maintenant. Je pense que derrière la déconstruction qui fut l'œuvre des bohèmes, encore une fois, les bohèmes, c'est pas simplement Henri Murger, mais c'est après le bateau Lavoir de Picasso qui va regrouper tous ces jeunes gens. C'est ensuite le dadaïsme, le surréalisme, le situationnisme. Mai 68 n'est qu'un avatar parmi beaucoup d'autres dans une longue histoire qui est celle de la déconstruction. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je vous dis la thèse un peu brutalement. Je pense que derrière, il y a quelque chose qui apparaît, que nous avons nommé aujourd'hui, que nous avons mis longtemps à nommer, la mondialisation libérale. Sous les pavés, il n'y avait pas la plage, il y avait le capitalisme financier. Et je pense depuis longtemps la chose suivante, ça fait 25 ans que je l'ai dit dans un livre qui s'appelait « La pensée 68 », je pense que derrière la déconstruction des valeurs traditionnelles par ces jeunes gens, par cet individualisme révolutionnaire, il y avait une exigence qui est au fond la suivante. Il fallait que les valeurs traditionnelles fussent déconstruites pour que nous puissions entrer dans l'ère de l'hyperconsommation. Si nous avions gardé les valeurs qui étaient celles de mon arrière-grand-mère, que j'ai bien connue, nous ne consommerions pas. Si mon arrière-grand-mère voyait aujourd'hui un grand centre commercial, elle trouverait ça, je puis vous l'assurer, dégoulinant de bêtises et d'obscénités. Elle penserait qu'on n'a pas besoin de tout ça. Et je pense qu'il fallait en effet que les bohèmes fissent le travail, que l'on déconstruise les valeurs traditionnelles pour que le capitalisme financier puisse s'épanouir. Qu'est-ce que c'est que la mondialisation? Et là, je vais revenir à la science. Et je voudrais essayer d'être précis. La mondialisation, elle a eu deux grandes étapes dans notre histoire. La première mondialisation, c'est le discours de la science, c'est la révolution scientifique, disons de Kepler à Newton. C'est le premier discours, quand vous y réfléchissez, le seul, à vrai dire, et de toute façon le premier dans l'histoire de l'humanité, ce discours de la science moderne. Je pense notamment évidemment à Newton, parce que c'est le premier vrai scientifique, en un certain sens, dans le domaine de la physique. C'est le premier discours à pouvoir sérieusement prétendre valoir pour tous les êtres humains, pour les riches comme pour les pauvres, pour les roturiers comme pour les aristocrates, pour les puissants comme pour les faibles, le principe de la gravitation universelle s'applique. Au fond, il y a un lien essentiel entre république, démocratie et science qui se noue à ce moment-là. Et cette première mondialisation, je l'appelle mondialisation, puisqu'encore une fois, c'est le premier discours à s'adresser au monde entier. Eh bien, cette première mondialisation, elle apparaît portée par un gigantesque projet de domination du monde. Il s'agit de dominer le monde intellectuellement. C'est entre parenthèses le sens de la formulation du principe d'inertie chez Descartes. Pourquoi ? Parce qu'avec ces histoires de boules de billard qui ne changent ni de direction ni de vitesse tant qu'il n'y a pas un corps qui vient les choquer, qu'est-ce qu'il veut dire en vérité ? Il veut dire une chose qui est extraordinairement profonde, qui nous paraît évidente aujourd'hui mais qui à l'époque ne l'est pas du tout, c'est que rien n'arrive dans la nature sans qu'il y ait une raison que cela arrive. Autrement dit, on va exterminer, avec ce principe d'inertie, la représentation alchimiste de la nature, la représentation selon laquelle la nature serait traversée par des forces occultes, invisibles, que les alchimistes essayent de maîtriser pour transformer, si possible, le plomb en or. On va en finir avec cette représentation de la nature comme un gros animal, comme on dit encore à l'époque. Ilozoïsme, comme un gros animal dominé, encore une fois, par une âme du monde, ce qu'on a appelé l'animisme. Le principe d'inertie tente de mettre fin à cette idée en disant non, il n'y a pas de mystère dans la nature, il y a des mystères en fait, mais pas en droit. En droit, tout doit pouvoir s'expliquer. Domination théorique du monde, mais aussi domination pratique, parce que dès lors que l'arbre n'est plus habité par un petit dieu, dès lors qu'il n'y a pas une âme à l'intérieur de la nature, elle cesse d'être sacrée et par conséquent, cet arbre, je peux l'utiliser pour réaliser les fins qui sont les miennes et le passer par la cheminée pour me chauffer ou en faire un buffet si j'ai besoin d'un buffet. On a là quelque chose qui est l'ordre de la désacralisation de la nature ou de ce que Max Weber a appelé joliment le désenchantement du monde. Pensez que pour un homme du Moyen-Âge, la nature, elle ressemble à la nature des contes de fées de notre enfance. C'est une nature dans laquelle les arbres, la nuit, peuvent extraire les racines du sol et se mettre à marcher et à parler. C'est avec cela qu'on en finit, et c'est cela la domination théorique du monde, par le principe d'inertie, et puis un peu après, parce que Leibniz s'appellera le principe de raison suffisante, mais qui n'en est que la formulation philosophique générale. Domination théorique, domination pratique. Mais, et vous allez voir où je veux en venir, et ça n'est pas entièrement facile à expliquer en 3 minutes, mais je vais essayer de le faire, de faire tenir la dinde dans le marron, parce que je crois que ça en vaut la peine, en tout cas à mes yeux. Au fond, l'idée que je vais vous présenter, c'est l'idée sur laquelle je bute depuis des années, qui me paraît être peut-être la plus éclairante qui soit pour comprendre ce siècle dans lequel nous vivons, et ce fameux principe de précaution auquel je reviendrai tout à l'heure. Lorsqu'on met en place au XVIIe siècle ce gigantesque projet de domination de la nature par la science, il y a à ce projet une finalité grandiose qui est extérieure à la domination elle-même. Il ne s'agit pas de dominer pour dominer, pour montrer que les humains sont puissants, intellectuellement et pratiquement, mais il s'agit de dominer pour émanciper l'humanité, liberté, et la rendre plus heureuse. Il y a un événement, comme vous le savez tous, qui frappe les esprits et sur lequel tous les grands esprits du XVIIIe siècle vont s'exprimer. C'est le fameux tremblement de terre de Lisbonne en 1755. Que disent-ils les savants? Il n'y a qu'une exception, c'est Rousseau, qui n'est déjà plus un homme du XVIIIe, mais du XIXe, un romantique avant la lettre. Eh bien, ils disent tous, au fond, ceci. La nature est méchante. Elle nous envoie des catastrophes. Mais grâce au progrès scientifique, nous allons pouvoir la maîtriser, cette nature, et par conséquent, rendre l'humanité à la fois plus libre et plus heureuse. On n'est pas du tout écologiste à l'époque. Je ne porte pas de jugement de valeur, je dis simplement qu'il y a une double finalité qui est extérieure au processus de domination et qui est grandiose, qui définit un projet de civilisation admirable. La République, la démocratie sont sortis de cette idée qu'on allait rendre l'humanité plus libre et plus heureuse. Plus libre doublement, plus libre par rapport à la tyrannie de la nature, mais aussi plus libre par rapport à la tyrannie de la superstition. Ce n'est pas pour rien que les Lumières s'appellent les Lumières, métaphore de la lutte contre l'obscurantisme, contre l'obscurité de l'obscurantisme. Nous avons là quelque chose qui est grandiose. Regardez la deuxième mondialisation maintenant, celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui plongés. Cette deuxième mondialisation, elle est liée à une chute au sens biblique et platonicien du terme. Ce projet scientifique grandiose, lié à un projet politique, celui de la République et de la démocratie, il va tomber en quelque sorte dans un monde qui est tout simplement le monde capitaliste, le monde libéral, c'est-à-dire un monde qui est au moins, au minimum, organisé autour de l'idée d'une compétition universelle entre les entreprises, bien sûr, mais aussi bien entre les peuples, les universités, les laboratoires scientifiques, compétition tous azimuts et compétition ouverte sur le grand large. Chute, en quelque sorte, du projet scientifique et technique à l'intérieur de cette société de la compétition universelle. Qu'est-ce que ça change ? En quoi cela fait-il peur? Ça change une chose qui est absolument fondamentale, c'est que le sens de l'histoire va être bouleversé par cette chute. Pour un homme du XVIIIe siècle, pour un Voltaire, quand il écrit sur le tremblement de terre de Lisbonne, par exemple, eh bien, il va de soi, ou pour un révolutionnaire français, un Girondin ou un Jacobin, peu importe, il va de soi que l'histoire avance pour se rapprocher de la double finalité que j'évoquais tout à l'heure, rendre l'humanité plus libre et plus heureuse. Regardez le fameux texte de Condorcet sur les progrès de l'esprit humain, c'est tout entier ce projet qui traverse les esprits du XVIIIe siècle. Lorsque vous tombez dans un monde de la compétition, capitaliste, libéral, peu importe comment on l'appelle, l'histoire change radicalement de sens. Elle ne va plus avancer, aspirée par la représentation d'un projet grandiose, mais mue par la pure et simple nécessité de progresser ou de périr. Celui qui fabrique ce que j'ai dans la poche, on ne va pas dire le nom, disons simplement un téléphone portable, il sait une chose, à coup sûr, c'est peut-être la seule chose dont il puisse être absolument certain, c'est que si le téléphone portable qu'il met sur le marché dans 3 mois n'est pas plus performant que celui que j'ai à la main, et il le sera dans 3 mois, eh bien purement et simplement, il est mort. C'est une question de survie, ce n'est pas une question de projet. Et par conséquent, l'histoire avance désormais, non pas mue par la représentation d'une fin sublime, liberté, bonheur, un grand projet politique, une politique de civilisation. Mais l'histoire avance mue par la logique mécanique, automatique et aveugle de la compétition. Si je n'avance pas, je tombe, comme un vélo qui n'avance pas tombe, ou comme un gyroscope qu'on a posé sur son fil, s'il ne tourne pas assez vite sur son axe, il tombe du fil. Mais le malheureux gyroscope ne sait pas pourquoi il tourne. Nous sommes dans une économie qui tourne à toute vitesse. Ça avance, évidemment, formidablement d'ailleurs. Il y a ce que Daniel Alevi appelait une accélération prodigieuse de l'histoire. Mais personne ne sait dans quelle direction. Autrement dit, 2 événements majeurs, perte de sens, le sens de l'histoire a totalement disparu, ce qui donne d'ailleurs le sentiment à tous nos concitoyens que la politique est devenue plus ou moins gestionnaire à courte vue et qu'elle n'a pas de champ de profondeur de vision. On ne cesse de le lui reprocher. Perte du sens de l'histoire. Pourquoi ? Parce que c'est structurel. Personne ne peut savoir dans quelle direction ça va partir. Souvenez-vous, quand on a inventé le Minitel en France, et on a inventé le Bebop, si on avait su qu'il y aurait des Internet et les GSM, on n'aurait jamais inventé ça. C'était des belles inventions, au demeurant. Hein ? Mais on ne savait pas ce qui se faisait à côté. Personne n'a la vue globale. Et donc, le sens s'est complètement obscurci. Ça avance à une vitesse folle, mais personne ne sait dans quelle direction. Et surtout, et j'en reviens aux OGM, deuxième conséquence de ce changement complet de régime du fonctionnement de l'histoire qui caractérise la période absolument contemporaine, et c'est cela qui fait peur. Deuxième conséquence abyssale, l'histoire nous échappe de toutes parts pour les mêmes raisons. Personne, y compris l'homme politique le plus puissant du monde ou le financier le plus puissant du monde, ne sait dans quelle direction les marchés financiers vont bouger. Personne n'a prévu la crise des subprimes. Les altermondialistes s'imaginent que derrière les marchés financiers ou derrière les médias, il y a des gens qui tirent les ficelles. Mes chers amis, si c'était le cas, ce serait la bonne nouvelle. La vérité, c'est qu'il n'y a absolument personne. Les marchés financiers ou la logique des médias ressemblent exactement à ce que Louis Althusser appelait un procès sans sujet. Ça ressemble aux bancs de poissons dans les films de Cousteau, ça va tout d'un côté, tout de l'autre, les unes de nos hebdomadaires, mais il n'y a pas de chef d'orchestre derrière. Ou le chef d'orchestre, c'est purement et simplement la logique de la marchandise. On va là où est la mangeoire, là où le papier se vend, point final. Et d'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder les unes de nos hebdomadaires pendant une campagne électorale, ce sont toutes les mêmes. Après, on met des accents différents, selon qu'on est à droite ou à gauche, mais la logique de la médiation est évidemment omniprésente. Et là, nous avons quelque chose qui va légitimer les peurs, pas à mes yeux, en tout cas les expliquer, peut-être pas légitimer, mais les expliquer. Pourquoi ? Parce que nous entrons dans un régime de l'histoire qui relève de ce que j'appelle la dépossession démocratique. Nous sommes dépossédés de la promesse que faisait la République que nous allions participer au contrôle de l'histoire. C'est ça la vérité des choses. Les marchés financiers nous échappent de toutes parts. La crise des subprimes est imprévisible. La logique qui fait qu'aujourd'hui, les investissements financiers se déplacent de l'immobilier vers les matières premières agricoles, personne n'y peut rien. C'est un phénomène mondial que personne ne contrôle. On peut râler, on peut protester, mais ça se passe comme ça. Les délocalisations, pareil. Et donc, nous avons là, je dirais, un problème de dépossession qui ressemble très exactement à ces grands mythes religieux, bien évidemment, qu'on utilise aujourd'hui dans la presse pour stigmatiser les OGM. Frankenstein, l'apprenti sorcier, qu'est-ce que c'est que l'histoire de Frankenstein? C'est un mythe de la dépossession, un mythe théologique extrêmement profond, avant d'être pris par Marie Shelley. C'est l'idée d'une créature qui échappe à son créateur. Le docteur Frankenstein fabrique son monstre, créature, et la créature lui échappe, il perd le contrôle, et elle menace de dévaster la planète. De la même manière, dit-on, le chercheur fabrique le petit grain de maïs, et puis transporté par le vent, le pollen se répand à 100, 150 km, il échappe au contrôle du créateur, et nous avons affaire à un mythe de la dépossession. Personne n'a jamais pu montrer que les maïs OGM étaient dangereux. Mais ce qui fait peur, ce n'est pas la dangerosité du maïs, c'est la perte de contrôle. C'est là que joue la peur des écologistes. Hein ? C'est la dépossession, parce que ça renvoie à un phénomène global. Dépossession face au cours de l'histoire, d'une manière générale, notamment aux marchés financiers, mais aussi à ce que peuvent inventer aujourd'hui les scientifiques. C'est ça qui anime en profondeur le principe de précaution. Et même si, comme moi, vous le jugez parfois absurde, ce principe, il faut d'abord comprendre ce qu'il y a derrière si on veut, comment dire, lui faire justice dans tous les sens du terme, à la fois prendre ce qu'il y a de juste en lui et en même temps se débarrasser, si possible, de ce qu'il y a de profondément faux dans ce principe. Je conclus, mais j'aurais mille choses à dire, deux conclusions, l'une républicaine et l'une rationaliste, au fond. Première conclusion, le problème politique numéro un aujourd'hui, après on peut discuter, mais c'est le problème préalable à tous les autres, c'est tout simplement comment reprendre la main sur le cours du monde. C'est le problème de la République et pas simplement de la démocratie. Comment reprendre la main sur le cours du monde, sur un cours du monde qui nous échappe aujourd'hui de toutes parts. Les politiques ne sont pas des menteurs quand ils ne tiennent pas leurs promesses. La vérité, c'est qu'ils sont plutôt dans l'impuissance publique. S'ils pouvaient tenir leurs promesses, je vous garantis qu'ils les tiendraient très volontiers. Ça leur permettrait du reste d'être réélus plus facilement. Et la deuxième conclusion, c'est au fond que non seulement il nous faut reprendre la main, ce qui est un problème de République, mais il faut aussi que nous soyons capables, face aux peurs que suscite évidemment cette dépossession démocratique, que j'appelle démocratique parce qu'elle est produite par le mouvement même de la démocratie. C'est une contradiction interne. Eh bien, le problème qu'il faut nous poser, c'est au fond le problème suivant. Comment, face à cette dépossession, échapper au réflexe de peur et au retour de l'obscurantisme? Je suis extrêmement inquiet depuis maintenant quelques années par le déclin des vocations scientifiques, qui est en France dramatique, mais encore plus dramatique au Canada et en Allemagne. Nous avons en France environ, j'avais fait travailler mes services sur le sujet de façon très précise, en compensant tous les biais, nous avons environ, si on prend comme critère les étudiants dans les deux premières années d'université, qu'on compense avec les grandes écoles, avec les IUT, etc., et les classes prépa, on a une baisse environ de 40% en 15 ans des vocations scientifiques. Donc 40%, c'est gigantesque. Et quand je parle des vocations scientifiques, je parle de ce qui est vraiment important, c'est-à-dire les sciences dures. Je parle notamment de la physique, de la chimie et de la biologie. On a là plus de 40% de baisse en 15 ans. On a les mêmes chiffres en Allemagne et au Canada, un petit peu pire en Allemagne et au Canada qu'en France. C'est dire qu'on a là un véritable problème. Quelles sont les causes? Bien sûr, on peut dire qu'il y a le manque, la misère de la recherche, c'est probablement vrai. Mais vous savez, au Canada et en Allemagne, elle n'est pas miséreuse, la recherche. Elle est assez agréable. Moi, j'ai fait mes études en Allemagne, on y est très bien. On a des très beaux laboratoires, des très belles universités, des bibliothèques magnifiques. Et pourtant, la chute des vocations scientifiques est tout aussi grande qu'en France et même plus grande encore. Je pense qu'il y a deux raisons. Il y a une raison évidente, c'est que cette inscription du principe de précaution, sinon dans la Constitution, puisque ce n'est pas le cas en Allemagne ou au Canada, mais en tout cas dans les esprits, a donné l'idée à tous que le vrai risque émanait aujourd'hui, non pas comme le pensaient les hommes du XVIIIe siècle, de la nature, mais de la science. Le risque majeur, c'est la science. Ce qu'on appelle le risque majeur, c'est le risque de destruction de l'humanité. C'est à la science qu'on l'impute aujourd'hui et non pas à la nature. Il y a une deuxième raison. Donc, je pense que, en gros, le discours écologiste moyen, si vous voulez, est un discours qui est perçu quand même globalement, quoi qu'on essaie de corriger le tir aujourd'hui, comme un discours anti-science. Et je pense, deuxièmement, et ça c'est peut-être à la fois plus banal et plus profond, parce que tout simplement plus vrai, que quand vous regardez dans nos études, Maintenant, depuis 40 ans, toute l'idéologie pédagogiste, toute l'idéologie qui fonde les nouvelles méthodes mises en œuvre dans nos écoles et dans nos collèges, c'est l'idéologie de l'expression de soi, de la spontanéité. C'est presque les micro-trottoirs de TF1. Chacun est invité à dire ce qu'il a sur le cœur, à s'exprimer, à parler, à dire ce qu'il pense, à débattre. Très bien, pourquoi pas ? Il n'y a qu'un domaine dans lequel c'est pas l'idéal, c'est le domaine scientifique. Parce que dans le domaine scientifique, avant de débattre et de discuter, il faut apprendre. Et je vous signale une chose, vous le savez tous ici, c'est que pour apprendre dans le domaine scientifique, il faut singulièrement travailler. Et il faut travailler comme une bête, si je puis dire. Ce n'est pas un domaine dans lequel on peut s'en tirer avec la tchatche. En philo, on peut y arriver. En français, il n'y a pas trop de problèmes. En histoire, on peut quand même discuter sur la Révolution française. Quand vous apprenez la double hélice et la transcriptase inverse, ben vous êtes obligé de la fermer pendant un petit moment avant d'avoir votre mot à dire. Et puis, il faut apprendre des choses. Il y a à la fois un arrêt à la spontanéité, à l'individu roi, à la subjectivité reine, mais il y a aussi une demande de travail incompressible qui ne colle pas avec l'air du temps. Et je pense que la première précaution à prendre aujourd'hui, si on veut redonner un sens au principe de précaution, eh bien, c'est d'éviter le retour de l'irrationalisme, c'est d'éviter le retour de l'obscurantisme. Je ne suis pas du tout un scientiste fanatique, je n'appartiens pas au clan des positivistes, mais je pense que rien n'est plus grave aujourd'hui que cet affaiblissement de la science, que ce déclin des vocations scientifiques. Je pense que c'est beaucoup plus grave que 1000 autres pollutions qu'on pourra évoquer dans le discours des écologistes. Et je pense que la première chose à faire, il faudrait que nous y travaillions, moi je serais prêt d'ailleurs à revenir ici pour en parler avec qui le souhaitera, c'est que nous réfléchissions aux moyens de redonner à la recherche scientifique. C'est même pas une question d'argent ou de financement, bien que ce soit très important, mais l'attrait qu'elle a perdu aux yeux des jeunes générations. Il faut aujourd'hui vraiment avoir la vocation pour s'engager dans cette direction qui est celle de la science. Il y a évidemment des gens qui le font, des jeunes qui le font, c'est formidable, mais je pense que ce déclin de 40% en 15 ans mérite une réponse plus qu'énergique de notre part, et que si le principe de précaution doit avoir un sens pour moi acceptable, c'est d'abord et avant tout celui-là. Je vous remercie de votre attention.
Vous venez d'entendre le philosophe Luc Ferry portant sa réflexion sur le principe de précaution, notamment utilisé pour le moratoire instauré sur les OGM. Les OGM, qui étaient le sujet du colloque auquel participait l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Luc Ferry, un colloque organisé par l'Académie des sciences en septembre 2008. Nous vous invitons à poursuivre les retransmissions des autres interventions en téléchargeant dès maintenant les trois thèmes suivants: l'amélioration des plantes avec les biotechnologies, les OGM peuvent-ils résoudre tous nos maux ? Et enfin, les plantes OGM peuvent-elles être une menace pour notre santé ? Merci de nous avoir suivis et à très vite sur Canal Académie.